monde aujourd'hui, Jean Roger Bion à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 3 avril 2024. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko, considéré comme l'artisan de sa victoire au poste de premier ministre. En Guinée, les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile dénoncent le report de la fin de la transition sans aucune concertation avec les acteurs sociopolitiques.
Le réalisme nous prouve que si on tient à ce que les élections se tiennent conformément au chronogramme de la transition tel que conclu avec la CEDEAO, on ne pourra avoir probablement que le scrutin référendaire s'étendait.
Kabiné Fofana, président de la Société guinéenne de sciences politiques, fera le point dans la partie magazine sur la situation en Guinée. En Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours qui appelait à l'annulation d'une loi anti-homosexualité jugée répressive. Un puissant séisme à Taïwan a fait au moins 9 morts et plus de 1000 blessés. L'OTAN veut s'engager sur le long terme aux côtés de l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé au poste de premier ministre la figure clé de son élection, Ousmane Sonko. Ce dernier a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement, davantage avec Alexandre Nolugnon.
S'exprimant après sa nomination, Ousmane Sonko a dit mesurer l'importance de la confiance placée en sa personne et qu'il présenterait au président Faye une liste complète des nominations ministérielles proposées pour approbation. Il n'est pas question de laisser Faye assumer seul cette lourde responsabilité, a déclaré Sonko. L'opposant à l'ancien président Macky Sall est populaire parmi les jeunes Sénégalais, mais il a été exclu de l'élection présidentielle du 24 mars en raison d'une condamnation pour diffamation. Il a nié tout acte répréhensible. En première ligne d'un combat de 3 ans contre le pouvoir, Ousmane Sonko a souligné mardi son programme pour un Sénégal souverain, juste et prospère, visant à accomplir la rupture, le progrès et le changement définitif que lui et le nouveau président avaient élaboré en commun et défendu ensemble. Quelques heures avant sa nomination, Bassirou Diomaye Faye avait prêté serment devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'État et dirigeants africains.
Le président italien Sergio Mattarella était ce mercredi en visite en Côte d'Ivoire où il a rencontré son homologue Alassane Ouattara pour évoquer notamment la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et sur les questions migratoires. Monsieur Mattarella, dont le poste est principalement honorifique, doit visiter demain jeudi les activités de la station de pompage du gisement Baleine en mer. Les questions d'immigration illégale ont également été abordées par les deux présidents lors de leur entretien ce mercredi matin. Le Rwanda commémore à partir de dimanche le génocide des Tutsis. Les célébrations officielles débuteront le 7 avril, jour des premières tueries de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle, faisant 800 000 morts, majoritairement dans la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus modérés. Comme chaque année, le président Paul Kagame va allumer une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali. Cette cérémonie, en présence de dirigeants et officiels étrangers, marquera le début d'une semaine d'hommage qui verra le pays tourner au ralenti. En Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté aujourd'hui un recours demandant l'annulation d'une loi anti-LGBT. Des organisations des droits humains dénoncent un jugement sommaire et les États-Unis se disent très préoccupés. Claire Morin-Gibou.
Nous refusons d'annuler la loi anti-homosexualité dans son intégralité, a déclaré le juge Richard Boutera. Et nous n'accorderons pas non plus une injonction permanente contre son exécution. Les 5 juges ont toutefois supprimé plusieurs dispositions qu'ils jugeaient incompatibles avec les conventions internationales, comme le fait de sanctionner la non-dénonciation d'actes homosexuels. Les avocats et députés qui avaient défendu le recours se disent déçus, dénonçant un jugement sommaire. La présidente du Parlement, Anita Among, s'est réjouie de cette décision qui, selon elle, protège l'Ouganda contre toute influence étrangère négative. La Maison-Blanche se dit très inquiète de cette loi. Personne ne devrait vivre dans la peur constante, ni être soumis à la violence ou à la discrimination. C'est tout simplement inacceptable, a déclaré le porte-parole John Kirby.
En RDC, plus de 100 détenus sont morts depuis le début de l'année dans les prisons sous-financées et chroniquement surpeuplées, a déclaré aujourd'hui un responsable des droits de l'homme de l'ONU. Ces décès sont principalement dus à des maladies contagieuses telles que la tuberculose, qui se propage facilement dans les établissements pénitentiaires. Le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a confirmé jusqu'à présent 104 décès en détention depuis le début de l'année 2024. La plupart des décès enregistrés se sont produits dans les provinces orientales du Nord Kivu et du Tanganyika, ainsi que dans la province occidentale du Kwilu. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré l'état de catastrophe nationale suite à la sécheresse qui est associée au phénomène climatique El Niño, vont aggraver l'insécurité alimentaire. Selon la FAO, le Zimbabwe est le troisième pays d'Afrique australe à déclarer l'état de catastrophe naturelle après le Malawi et la Zambie en lien avec la sécheresse.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 9 morts et plus de 1000 blessés à Taïwan dans un séisme de magnitude supérieure à 7 ce mercredi. La présidente Tsai Ing-wen a annoncé le soutien de l'armée. Les alertes au tsunami au Japon et aux Philippines ont été levées. Nathalie Barge.
La région de Hualien, près de l'épicentre dans l'est de l'île, est particulièrement touchée par le séisme sous-marin, estimé à 7,2 par l'agence météorologique taïwanaise. L'agence météorologique japonaise et l'Institut américain d'études géologiques ont enregistré des magnitudes de 7,4 à 7,5. Les règles de construction adaptées et la préparation aux catastrophes naturelles ont permis d'éviter le pire. Des bâtiments se sont inclinés sous l'effet du tremblement et un entrepôt de Nouveau Taipei s'est effondré. Plus de 50 survivants ont été extraits des ruines, indiquait le maire. L'activité de certaines usines a été brièvement interrompue. Des bulldozers ont été mobilisés pour dégager des rochers bloquant des routes vers Hualien. Les abords de la ville côtière entourée de montagnes comportent de nombreux tunnels. Les autorités craignent que des automobilistes y soient piégés. Des dizaines de mineurs d'une carrière sont hors de portée des secours. La principale voie ferrée reliant Taipei au sud a été coupée pour des réparations. Le séisme a déclenché des alertes au tsunami à Taïwan, dans des îles japonaises et provinces philippines. L'aéroport de Naha à Okinawa a suspendu temporairement son trafic aérien. Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique basé à Hawaï a appelé les habitants des régions littorales à rester prudents. En septembre 1999, un séisme de magnitude 7,6 avait fait 2400 morts à Taïwan.
L'OTAN doit être en mesure d'offrir une aide prévisible sur le long terme pour l'Ukraine face à l'agression russe, a déclaré aujourd'hui à Bruxelles son secrétaire général Jens Stoltenberg. C'est tout. Le point avec Rosine Monizero.
Nous devons assurer une assistance militaire fiable, prévisible et à long terme pour l'Ukraine, a déclaré M. Stoltenberg peu avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Ces derniers devraient discuter d'une proposition de création d'un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour aider Kiev. M. Stoltenberg s'est refusé à donner des détails sur cette assistance financière, expliquant que les discussions allaient débuter cette semaine en vue de trouver un consensus parmi les 32 pays de l'OTAN avant leur sommet en juillet à Washington. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé mardi un projet de loi prévoyant l'abaissement de l'âge de la mobilisation militaire de 27 à 25 ans, alors que les forces armées manquent d'hommes pour faire face à l'invasion russe. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé mercredi observer une hausse significative des recrutements depuis l'attentat meurtrier du 22 mars contre une salle de concert près de Moscou, assurant que ces nouveaux enrôlés voulaient venger les victimes. Mais les autorités russes, le président Vladimir Poutine en tête, persistent à tracer un lien entre l'Ukraine et l'attaque, des accusations que Kiev continue de rejeter.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a indiqué aujourd'hui que le bilan du raid imputé à Israël contre le consulat iranien lundi à Damas était passé à 16 morts, dont 2 civils. Un précédent bilan de l'ONG, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, faisait état de 13 morts mardi. Il s'agissait du 5e raid israélien en l'espace d'une semaine en Syrie, dont le président Bachar al-Assad est soutenu par l'Iran, et des mesures d'Israël dans la région. Et puis, l'armée israélienne a reconnu aujourd'hui une grave erreur après la frappe qui a tué dans la bande de Gaza 7 membres d'une ONG humanitaire, parmi lesquels 6 étrangers dont les corps devaient être rapatriés. La frappe israélienne lundi à Deir al-Balah a tué 7 membres de World Central Kitchen, basé aux États-Unis, qui venaient de décharger plus de 100 tonnes de nourriture amenées à Gaza par voie maritime, selon l'ONG. Voilà pour le journal, vous suivez VOA. À présent, la Minute Éco avec Nani Kalani.
Au Nigeria, la Commission de régulation de l'électricité a approuvé mercredi une augmentation de 225 naira par kilowattheure des tarifs de l'électricité pour les consommateurs les plus aisés du pays. La hausse, qui prend effet immédiatement, concerne un peu moins de 15% des clients de l'industrie nigériane de l'approvisionnement en électricité, a déclaré le vice-président de la commission, Musiliu Oseni. La Banque centrale du Ghana a maintenu son principal taux d'intérêt à 29%, affirmant que les perspectives d'inflation se sont légèrement détériorées au cours des 2 derniers mois et nécessitent une surveillance étroite. Le comité de politique monétaire de la banque a également décidé d'ajuster le ratio de réserve de trésorerie pour encourager les banques à prêter au lieu d'investir plus d'argent dans des bons du trésor. Pour terminer, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont continué de grimper ce mercredi à près de 90 dollars. Les contrats à terme pour juin ont augmenté de 76 cents à 89,68 dollars le baril à 13h46 temps universel, soit environ 0,9%. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate américain pour mai ont gagné 62 cents, soit 0,7%, pour se fixer à 85,67 dollars le baril.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Marc Brice est le nouveau sélectionneur du Cameroun.
Oui, la chaîne nationale, la CRTV, a annoncé hier soir que le Belge Marc Brice va être le nouveau sélectionneur des Lions du Cameroun. Selon le communiqué du ministre des Sports, il sera assisté par François Oman Biyik, Achou Besson, Alioune Boukar et Germain Noël Essengué. Le technicien belge de 61 ans succède ainsi à Rigobert Song, dont le contrat n'a pas été renouvelé, après une CAN 2023 ratée avec une élimination en huitième de finale. Et puis ce mercredi, cette réaction de la Fédération de football du Cameroun, dirigée par Samuel Etofis, dans un communiqué sur sa page Facebook officielle, l'AFECAFOOT marque son grand étonnement de la nomination de ce nouveau staff par le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi. L'AFECAFOOT soutient que la désignation du staff technique n'a pas respecté les textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales camerounaises. Essayons de comprendre tout cela avec Joseph Valéry Fotso, journaliste sportif à la radio Siantouf.
Pour moi, le ministre n'a pas à nommer un entraîneur. Ça se fait sur proposition, ici, sur proposition du président de l'AFECAFOOT, et le tour est joué. Et même lorsqu'on parle des hautes instructions, il s'agit de quoi? Le décret parle de proposition du président de la fédération. Donc, le président de la fédération avait proposé à l'État qu'il peut se retrouver même à la primature ou à la présidence de la République. La différence, c'est que c'était sur proposition du président de la FECAFOOT que Rigobert Song a été nommé, d'où les hautes instructions. Mais cette fois, c'est sur proposition du ministre. C'est clair que ça viole déjà les textes et les statuts.
Ici en NBA, c'est un retour gagnant pour Joel Embiid.
Les Philadelphia Sixers ont fêté le retour de blessure du pivot camerounais avec une victoire de prestige contre le Thunder d'Oklahoma City 109-105. Joel Embiid, MVP en 2023, revient ici un peu plus de 2 mois après s'être blessé à un genou le 30 janvier. Embiid a compilé 24 points, 7 passes décisives et 6 rebonds. La défaite du Thunder a de lourdes conséquences au classement dans la lutte très serrée pour la première place et l'avantage du terrain lors des playoffs à l'ouest. Oklahoma City a en effet perdu 2 places, laissant la tête au champion Denver, vainqueur face à San Antonio 110-105, et la 2e place au Minnesota Timberwolves, qui ont battu Houston 113-106. Les Milwaukee Bucks, 2e à l'est, ont subi un revers inattendu sur le parquet des Washington Wizards, 117-113. Les Los Angeles Lakers ont signé une 7e victoire en 8 matchs sur le parquet des Toronto Raptors, 128-111. Les Golden State Warriors respirent ainsi grâce à leur succès sur Dallas, 104-110.
Page d'espoir VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé mardi soir au poste de Premier ministre la figure clé de son élection, Ousmane Sonko. Ancien collègue et militant du même parti, l'ex-PASTEF, les deux hommes pourraient bénéficier de leur proximité pour une bonne collaboration au sein du pouvoir exécutif. Mais les tensions futures ne sont pas à exclure, selon de nombreux observateurs. Pour une analyse, Mouamadou Mfa, adjoint à Dakar, le journaliste et politologue Ibrahima Bakoum.
Ben, sans surprise pour la plupart des Sénégalais, certains hommes disaient qu'il fallait absolument Ousmane Sonko comme Premier ministre. Ça fait une sorte de duo où l'un serait président et l'autre aurait le pouvoir de décision, le pouvoir de proposition, le pouvoir de gestion. Évidemment, ça ne se verrait pas dans la rue, ça ne se comprendrait pas que les gens puissent dire « Nous avons élu un tel et puis voici celui qui dirige », mais ça peut arriver qu'ils s'entendent en duo totalement complice.
Donc, selon vous, on pourrait assister à un renforcement des pouvoirs du Premier ministre pour permettre à M. Sonko d'avoir suffisamment de coups de franges pour mener à bien le programme politique qui a été soutenu par les deux hommes.
Diomaye, il avait déjà dit qu'il était encore juste candidat, qu'on irait effectivement dans ce sens, réduire les pouvoirs du président de la République, parce que nous avons ici un présidentialisme très fort. Le président décide presque de tout, il nomme aux fonctions civiles et militaires en toute discrétion. Là, évidemment, ça pourrait être, mais ça, ils en décideraient. Éventuellement, si ça doit passer par une modification de loi, on verra toujours, mais n'oublions pas que probablement d'ici la fin d'année, on aura de nouvelles élections législatives et à ce moment-là, il pourrait dire exactement quelle place pour le Premier ministre, quelle place pour le Président de la République.
Il n'empêche qu'il pourrait y avoir des tensions entre les deux hommes. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, provoquer les frictions entre les deux personnalités?
Bon, c'est vrai, comme on dit, ils sont de régions différentes. Ça, il faut bien qu'on le note. Bon, la Casamance, donc région d'Ousmane Sonko, évidemment, est traversée par tensions. Bon, ça va, maintenant, ça c'est un problème. Mais on ne sait jamais, il y a toujours des forces quelque part qui peuvent venir interférer. N'oublions pas que tous les deux ont des belles familles. Et quand je dis belles familles, chacun des deux a deux belles familles, parce que deux épouses. Au Sénégal, ça peut également avoir un rôle négatif à jouer quelque part.
Mais on imagine bien que le président Diomaye ne se contentera pas d'inaugurer les chrysanthèmes. Qui aura le dernier mot selon vous pour les décisions politiques majeures?
Vous savez, ça dépend du degré de confiance, de respect, de tout ce que vous voulez. Parce que si Diomaye continue encore à penser que le véritable président, si les Sénégalais l'ont élu lui, c'est parce que c'est simplement c'est l'os, il serait l'ombre de Ousmane. À ce moment-là, bon, ça ne devrait pas le gêner que Ousmane occupe un truc. Mais vous savez, l'appétit également vient en mangeant. Et je ne doute pas qu'arrivera un moment où il va vouloir avoir un peu plus de place dans la table. Quoi. Et ça peut donner effectivement à des tensions.
Alors, est-ce qu'on pourrait assister à un scénario à la Poutine-Medvedev?
On en parle ici, effectivement. Ousmane Sonko, qui se contenterait de la primature poste de Premier ministre, l'autre termine son mandat dans 5 ans. Bon, si, entre-temps, ils n'ont pas comme de faute de gestion, de telle sorte que les Sénégalais voudraient rapidement en finir, si ce n'est pas le cas, évidemment, à ce moment-là, oui, on pourrait aller encore à une élection, Ousmane président, et s'il gagne, évidemment, ou il fait de Diomaye son premier ministre, non seulement il cherche un autre premier ministre, parce que Diomaye aura à ce moment-là montré ses capacités ou ses limites.
Ibrahima Bakoum, journaliste et politologue sénégalais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les forces vives de Guinée regroupant les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile exigent de la junte le rétablissement du calendrier visant un retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre 2024, conformément à l'accord conclu avec la CDAO en octobre 2022. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Conakry, le politologue Cabinet Fouvana, président de la Société guinéenne des sciences politiques.
C'est une sortie, c'est donc une réponse au discours du Premier ministre le 26 mars dernier qui a donc échangé avec les acteurs politiques et qui leur a dit que les élections normalement prévues cette année ne pourront pas avoir lieu à cause justement du fait que le calendrier soit imprescriptible et que les activités permettant donc de faire tenir ces processus-là ne soient pas encore mises en œuvre.
Justement, une nouvelle constitution qui est prévue, entre autres, il y a un fichier électoral à nettoyer, il y a un code électoral, bien sûr, à retoucher. Tout cela n'est pas encore entrepris. Pourquoi, selon vous?
C'est difficile de dire les raisons, à part que ce soit peut-être un manque de volonté, parce qu'il faut rappeler que depuis septembre 2021, tout ce qui était tenu pour être en fait des préalables au retour à l'ordre constitutionnel sont plus ou moins pas mêlés avec plus d'engagement, plus de responsabilité, mais aussi de volonté politique réelle. Et puis il y a aussi quand même que dans le chronogramme, et bien que validé par la CEDEAO, ce chronogramme-là a des activités qui ne sont pas essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Le fait de les avoir comme étant des activités inhérentes au retour à l'ordre constitutionnel constituait naturellement un problème de glissement de mandat, mais aussi de prolongement d'une certaine façon des activités concourant au retour à l'ordre constitutionnel.
Est-ce qu'il faut craindre?
Pour ce monde qui se réclame du FNDC, mais aussi des forces vives de manière générale, parce que vous y avez le RPG arc-en-ciel, l'UFDG, qui sont des partis très très importants, et en termes aussi de trame et de considération dans le corps social guinéen, le FNDC n'est pas à négliger, donc perdre la légitimité donc des Guinéens, politiquement, c'est quelque chose qui est important, sans compter le fait que ça pourrait naturellement déboucher sur des manifs, qui n'est pas en soi quelque chose qui soit bien pour une transition qui se veut apaisée.
En gros, est-ce simplement un manque de volonté politique de la part des autorités en place?
Oui, en fait, c'est un manque de volonté politique qui nous a amené à une réalité de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut organiser le scrutin présidentiel, même avant celui référendaire, vous avez besoin d'avoir un fichier électoral. Et s'il faut extirper du RAVEC seulement le fichier électoral, il va sans dire que l'on n'aura pas les élections cette année. Si les élections doivent se tenir, il faut une loi électorale. Et là-dessus, on n'a pas encore une loi électorale stabilisée, retenue, à moins que l'on nettoie un peu la loi électorale et celle sur la Cour constitutionnelle. Alors, le réalisme nous prouve que si on tient à ce que les élections se tiennent conformément au chronogramme de la transition tel que conclu avec la CEDEAO, on ne pourra avoir probablement que le scrutin référendaire cette année.
Le politologue Kabiné Fofana, président de la Société guinéenne de sciences politiques.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les familles musulmanes déplacées par le conflit observent le Ramadan tant bien que mal dans un contexte de conflit dans la région. Elles ont érigé des mosquées de fortune dans les camps de déplacés et se partagent le peu de nourriture qu'elles ont pu garder pour rompre le jeûne. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Déplacées par les conflits autour de leur ville natale de Saké, cette jeune famille musulmane pratiquante va passer le Ramadan à vivre d'une ration alimentaire dérisoire de riz et de quelques boîtes de sardines. Mais le chef de famille, Abdourahmane Kikandi, se dit tout de même chanceux.
Le jeûne est une grâce divine que nous n'avons qu'une fois par an. C'est pourquoi je me force à jeûner. Mais il est très difficile de jeûner en déplacement. Si nous étions à la maison, nous aurions de quoi rompre notre jeûne chaque soir. Nous avons fui la guerre sans rien emporter. Et quand je suis revenu à la maison chez moi, j'ai constaté que tout avait été emporté par les voleurs. Même la nourriture que nous avions en stock avait été emportée.
Des milliers de civils ont fui vers la ville de Goma en début de mois, alors qu'une nouvelle avancée des rebelles du M23 près de Saké, la ville voisine, menaçait d'isoler les quelques 2 millions d'habitants à majorité musulmans.
La guerre est maintenant concentrée autour de Saké, et Saké est le berceau de l'islam dans la province du Nord Kivu, où toute la première mosquée de la province a été construite. Et c'est une ville qui compte beaucoup de musulmans. À cause de la guerre, les musulmans, comme tout le monde, se sont dispersés dans plusieurs camps de personnes déplacées. À cause de cette guerre et de la difficulté actuelle de la vie, nous ne savons pas comment nourrir nos fidèles avec suffisamment de nourriture pour rompre le jeûne de ce Ramadan.
Les musulmans du camp du lac Vert ont érigé des mosquées de fortune au milieu des tentes, distribuant le peu de nourriture disponible pour la rupture du jeûne.
Nous jeûnons dans des conditions très difficiles pendant ce ramadan. Nos enfants n'ont ni repas pour commencer le jeûne, ni repas pour le rompre. Nous n'avons nulle part où trouver de la nourriture. Et si nous retournons à Saké pour en chercher, nous sommes attaqués par les rebelles. En fait, ma maison a été démolie et je n'ai plus rien. Mes frères, venez nous aider. Nous souffrons beaucoup. Priez pour nous. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Que la paix nous soit apportée pour que nous puissions rentrer chez nous.
Les nouveaux arrivants en provenance de Saké, où se trouve la première mosquée de la province du Nord Kivu, ont rejoint les centaines de milliers de personnes déjà déplacées autour de Goma depuis 2022 en raison du conflit en cours.
Bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le porte-parole de la Maison Blanche pour la Sécurité Nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis étaient scandalisés par la frappe aérienne israélienne qui a tué 7 travailleurs d'une organisation caritative basée à Washington. Et il a appelé Israël à faire davantage pour assurer la protection des civils et des travailleurs humanitaires. C'est un reportage de Saint-Dicen. Le récit est de Rosine Monizero.
Le groupe d'aide World Central Kitchen, qui nourrit les personnes souffrant de catastrophes naturelles et de guerre, dit avoir suspendu ses opérations à Gaza après qu'une frappe aérienne israélienne a touché son convoi alors qu'il quittait un entrepôt chargé de nourriture. Un responsable américain a confirmé qu'un citoyen canadien possédant également la nationalité américaine figurait parmi les 7 personnes tuées. Les véhicules blindés transportant les denrées alimentaires portaient clairement le logo WCK. Le porte-parole de la Maison Blanche pour la Sécurité Nationale, John Kirby, a réagi comme suit lors de la conférence de presse de mardi.
Nous avons été scandalisés d'apprendre qu'une frappe de FBI a tué hier un certain nombre de travailleurs humanitaires civils de la World Central Kitchen qui a travaillé sans relâche pour apporter de la nourriture à ceux qui ont faim à Gaza et, franchement, dans le monde entier.
La World Central Kitchen est dirigée par le célèbre chef José Andrés. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Joe Biden a pris contact avec lui.
Le président a fait savoir qu'il était en deuil avec toute la famille de la World Central Kitchen. Le président a estimé qu'il était important de reconnaître l'immense contribution de la World Central Kitchen aux habitants de Gaza et du monde entier. Le président a fait savoir qu'il ferait comprendre à Israël que les travailleurs humanitaires doivent être protégés.
Aux côtés de son homologue français lors d'une visite à Paris, le secrétaire d'État Anthony Blinken a qualifié les travailleurs humanitaires de héros qui doivent être protégés.
Nous avons parlé directement au gouvernement israélien de cet incident particulier. Nous avons demandé une enquête rapide, approfondie et impartiale pour comprendre exactement ce qui s'est passé.
Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a été plus direct dans sa condamnation de l'attaque israélienne.
Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe israélienne qui a conduit à la mort de 7 humanitaires de l'ONG World War Central Kitchen. La protection du personnel humanitaire est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir.
L'armée israélienne a exprimé mardi sa sincère tristesse au sujet de la frappe aérienne et a déclaré que les responsables examinaient l'incident au plus haut niveau. Selon les experts, les enfants et familles palestiniens sont au bord de la famine et cette attaque ne fera qu'aggraver la situation. La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre dernier lorsque les militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël, tuant quelques 1200 personnes. Israël a répondu par une offensive de 6 mois, tuant quelques 33 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, sous contrôle du Hamas.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. ou un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.